Bonjour, vous écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce lundi 1er septembre 2014 avec Jean-Pierre dans les studios et Robert en duplex pour évoquer tout d'abord l'actualité internationale. Le 1er septembre 1939, il y a 75 ans, Hitler envahissait la Pologne. Aujourd'hui, c'est Poutine qui envahit l'Ukraine. Faut-il faire un tel parallèle un peu osé? Sûrement pas, mais jusqu'à un certain point quand même, quoi. Donc, les forces russes en Ukraine donc gagnent du terrain sur les forces ukrainiennes dans cette partie que Poutine a carrément déclaré vouloir annexer. C'est pas le mot, mais quand il parle de vouloir faire une zone indépendante, il a déjà annexé la Crimée. Il voudrait récupérer maintenant cette zone industrielle et minière à l'est de l'Ukraine. Bref, les relations entre l'Ukraine et la Russie n'ont jamais été simples au fil de l'histoire. Et là, ben, on va analyser ça un peu plus finement parce que, en plus, maintenant, les Européens, les Occidentaux sont entrés dans la danse avec un président ukrainien qui réclamerait carrément une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, évidemment. Et on voit, suivez son regard. L'idée, c'est d'obtenir un soutien militaire fort et légalisé, on va dire, par l'OTAN. On peut douter que tout le monde, aussi bien USA que autres occidentaux, soit aussi empressé de mourir pour Kiev à défaut de mourir pour Danzig. Bref, on est à une veille d'une situation de guerre en Europe, peut-être pas généralisée pour le moment, bien sûr, mais une situation de guerre quand même, ce qui ne s'était pas vu depuis un certain temps. Bon, si on se rapporte aux Balkans et aux problèmes entre la Serbie, la Croatie, la Bosnie, il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Voilà, peut-être Robert, tu veux faire aussi quelques commentaires, puis éventuellement je reviendrai sur le sujet après toi, si tu veux.
Oui, il faut rappeler que depuis des années, pratiquement depuis la fin de l'Union soviétique, donc 1990, mais progressivement, la Russie s'est trouvée dans une situation où peu à peu elle se voyait cernée de toutes parts. Ce que Poutine appelait l'endiguement, ça veut dire l'enfermement de la Russie par les pays sous direction états-unienne, qui était une manière d'affirmer que on voulait, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, maintenir une situation née de la fin de l'Union soviétique d'unipolarité, c'est-à-dire un seul pôle planétaire, et pas de partage en quelque sorte de la superpuissance possible. Et au cours de ces dernières années, peu à peu, Poutine, en tant que responsable de la Russie, a vu tous les pays de l'ancienne Union soviétique voisine rejoindre d'abord l'Union européenne et puis à peu près toutes rejoindre ensuite, être intégrées à l'OTAN pour une partie d'entre elles, et ce qui conduisait à une situation effectivement peu, que d'ailleurs qu'aucun pays ne supporterait. Et moi je comprends très bien que le comportement russe de ce point de vue là et non, ils estiment que les conséquences de la fin de l'Union soviétique, eh bien, se sont uniquement retournées contre la Russie elle-même, et que ça n'était fait que pour depuis réduire sa force. Et l'Ukraine, Quand on voit bien, juste au-dessus, il y a les pays baltes, donc ils sont devenus, avec la Pologne, aux frontières donc de la Russie, qui sont devenus les fers de lance de l'OTAN. Il restait l'Ukraine et les Russes. Ils avaient quasi la promesse que l'Ukraine, sans devenir un territoire neutre, puisque de toute façon on est dans le même système économique, système capitaliste. Donc sans devenir un État neutre, comme a pu être la Finlande à une certaine époque, mais n'entrerait surtout pas à l'OTAN, et puis aurait certes des relations, mais pas équilibrées, entre la communauté économique où il y a la Russie, la Biélorussie, l'Arménie, puis quelques autres pays, et puis l'Union européenne. Or, ce n'est pas du tout ce qui se produit depuis la fameuse révolution, dont on peut dire que la partie spontanée a été réelle, mais on voit bien que l'objectif, c'était effectivement de faire basculer l'Ukraine dans l'ensemble des pays qui allaient aux frontières de la Russie exercer un contrôle tatillon sur tout ce qui se passait chez le voisin. Donc c'était une situation que les Russes ne pouvaient pas admettre plus longtemps. Alors est arrivé ensuite les aspects, on va dire, économiques, à savoir que la puissance industrielle, c'est le Donbass, c'est la partie Est, et la puissance, c'est la partie agricole, mais qui a connu bien des déboires depuis la fin de l'Union soviétique, la partie agricole, c'est l'Ouest de l'Ukraine. Et donc cette partie Est, qui est en plus russophone, eh bien effectivement, pour les Russes, c'était impossible qu'elle tombe sous la domination de l'Union européenne et de l'OTAN. D'où aujourd'hui cette situation très 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 compliquée, voire très dangereuse, comme tu l'as expliqué, qui pousse les Russes pratiquement à favoriser la mise en place d'un État indépendant pour toutes ces régions qui déjà, elles, s'étaient soulevées contre le pouvoir de Kiev et des Européens et des Américains à l'époque. On en est là et il semble que les Russes ont, semble-t-il, ont pris la décision effectivement de dire ou bien effectivement on se met d'accord entre nous, et notamment à Minsk en ce moment où ils sont réunis, pour vraiment que l'Ukraine accepte un système fédéral qui laisse une autonomie très grande aux régions de l'Est, ou bien effectivement on va pousser et on va aider militairement ces régions à s'autonomiser. Alors ça provoquerait une rupture et la création d'une entité nouvelle dont les Russes ne disent pas qu'il faut créer un État, mais en fait ça finirait par y ressembler. Et en même temps, bien les Russes rappellent que finalement, quand on a créé le Kosovo, on est passé par-dessus les règles internationales, et puis que finalement, cette idée des frontières intangibles, ça n'est pas effectivement respecté partout. Il y a toujours deux poids, deux mesures. On en est là, c'est difficile à solutionner, d'autant que, comme on l'a dit, c'est pas la guerre froide, c'est pas deux régimes idéologiques qui s'affrontent, c'est à l'intérieur d'un même régime idéologique qui est celui du capitalisme qu'on s'affronte pour que côté russe il n'y ait pas domination unilatérale d'un seul impérialisme. Ils veulent eux aussi préserver d'abord leur capacité de puissance, mais aussi ne pas être en quelque sorte un peu, sans faire de rapprochement osé avec Gaza, mais se retrouver presque dans une prison à ciel ouvert. Et pour eux, bon, on dira que à l'est de la Russie, vers la Chine et vers le nord, bon, la Russie est loin d'être emprisonnée, mais Là où il y a les puissances économiques, c'est-à-dire l'ouest de la Russie, elle sent qu'elle est en voie d'être mise dans une tutelle qui ne lui plaît pas du tout.
Ouais. Si on regarde au niveau international, les répercussions, bon, on a vu beaucoup de gesticulations au niveau de l'Europe, même de certains pays comme la France, même l'Allemagne, qui maintenant commence à penser, paraît-il, à envoyer des armes en Ukraine. On peut penser que tout ça ne devrait pas aller très loin, parce que c'est un peu je te tiens par la barbichette, hein, parce que Poutine a besoin des Européens et des Occidentaux pour vendre son gaz et son pétrole. Les Occidentaux ont besoin du gaz et du pétrole. Et en fait, l'évolution de la situation, on n'imagine pas trop qu'il y a une opposition vraiment frontale. Alors on nous parle de nouvelles sanctions, on voit pas très bien quoi. On a plus l'impression quand même qu'on va vers cette partition de l'Ukraine, enfin que ça va finir par une partition de l'Ukraine, les Occidentaux s'accommodant d'une pseudo-annexion d'une partie du territoire par les Russes. Après tout, c'était dans l'URSS, ça l'a été longtemps. Et les Russes, quant à eux, se satisfaisant très bien de ces développements économiques supplémentaires qui pourraient leur être apportés par cette région. Militairement, aujourd'hui, l'avantage est aux Russes, puisque Lugansk est une ville qu'ils ont pris avec, paraît-il, des chars russes. On sait maintenant qu'il y a au moins 10 000 soldats russes qui sont infiltrés dans les territoires ukrainiens. On n'en a jamais tellement douté, parce que quand on voyait les mercenaires à l'œuvre sur les quelques images qu'on a pu récupérer, ils avaient l'air de tout sauf d'amateurs, quoi. Donc c'était des gens qui avaient retiré leur uniforme, mais qui étaient bien au fait de leur métier de militaire. Donetsk est menacé, et puis il y a ce port de Mariupol qui est lui aussi sous la pression et qui pourrait bien devenir entre la main des autonomistes, quoi. Voilà pour ce dossier important. Je vous propose qu'on en aborde un autre maintenant. On a un petit incident technique sur le téléphone. On va peut-être s'offrir une pause musicale, le temps de recadrer les choses, avec la suite de cette musique de la Danbunga Fanfare. Chose due, nous revoilà de retour à l'antenne. Jean-Pierre dans les studios, Robert en duplex, pour continuer d'aborder la rubrique internationale. La guerre à Gaza, paraît-il, est terminée. En tous les cas, depuis 8 jours, les armes ne parlent plus. Suite à un cessez-le-feu, on peut appeler ça comme ça, oui. Et c'est peut-être un peu tôt, mais on peut déjà faire un certain bilan de cette guerre. En tous les cas, c'est ce que ne manquent pas de faire les politiciens de part et d'autre. Côté israélien, le bilan, il est clair. Pour eux, ils ont gagné. Ils ont même tellement gagné qu'ils se sont permis aujourd'hui d'annoncer qu'ils squattaient 400 hectares pour installer leur colonie en Cisjordanie, 400 hectares de plus. Nous voilà revenus comme au bon temps des annexions permanentes avant cette guerre, comme si rien ne s'était passé. Il paraît que ces 400 hectares sont le prix à payer comme réponse aux trois jeunes qui avaient été assassinés il y a maintenant quelques trois mois. Quoi. Côté palestinien, ben, le bilan pour eux n'est pas si négatif que ça. Enfin, tout dépend comment on voit les choses. Ils comptent pas tellement leurs morts. Il y en a 2100. Et ils comptent surtout qu'ils ont tenu en échec l'armée israélienne, en fin de compte, avec les quelques 4000 roquettes qu'ils ont envoyées. Ils ne comptent pas non plus trop les 11 000 blessés. Tout ça, ça passe par pertes et profits. Les destructions par centaines d'immeubles. Mais l'important pour eux, c'est de manifester leur résistance à l'occupation, d'en finir avec l'occupation et sous cette pression permanente maintenue sur l'occupant, et espérer arriver à aboutir à la constitution d'un État palestinien avec des droits qui peut les faire respecter en face des Israéliens. Le cessez-le-feu, c'est peu de choses pour le moment. C'est l'arrêt des bombardements et d'un côté et de l'autre. C'est le passage, le droit au passage à l'aide humanitaire. C'est le droit de pêcher des poissons de 3 à 6 000 de la côte. La demande palestinienne étant d'aller jusqu'à 12 000 pour vraiment pouvoir faire de la pêche dans des conditions normales, quoi. On se donne rendez-vous dans un mois pour des négociations complémentaires qui devraient être extrêmement difficiles. Enfin, on ne sait jamais, ça peut avancer, sachant que dans ces négociations, les Israéliens mettent en avant une demande de désarmement du Hamas. Et ça, il faudra vraiment qu'il y ait eu beaucoup de droits accordés aux Palestiniens pour que le Hamas en vienne à accepter un désarmement. Voilà une partie du bilan de cette guerre qui a duré une cinquantaine de jours quand même, avec beaucoup d'actions militaires. Les tunnels ont été détruits, disent les Israéliens, mais beaucoup de bâtiments, beaucoup d'écoles, beaucoup de bâtiments que la communauté internationale et puis d'autres peut-être vont devoir reconstruire. Robert, tu voulais peut-être...
À ce bilan, comme tu as dit, qui est relativement politiquement positif pour les Palestiniens, au-delà des milliers de morts et des milliers de blessés, dont certains sont blessés à vie. Ce qu'on retient, c'est qu'effectivement, le gouvernement d'Union nationale a tenu le coup. Et mieux même, Abbas, président donc de la Palestine cisjordanienne, est apparu comme effectivement celui auquel le Hamas avait accepté qu'il parle au nom de tous les Palestiniens. Et c'est par exemple lui qui est le premier depuis l'Égypte, depuis le Caire, avait fait part du cessez-le-feu, que ce cessez-le-feu était durable et qu'il portait aussi sur des considérations politiques. Tu l'as dit, par rapport aux Égyptiens, la réouverture du passage de Rafah, où il y aura effectivement le passage du nécessaire humanitaire, mais ce sera aussi une manière de circuler pour les Palestiniens, de se sentir un peu moins prisonniers. Le 20 septembre, Abbas sera à l'ONU et il parlera là encore au nom de tous les Palestiniens pour rappeler l'exigence d'un État palestinien recouvrant une Cisjordanie libre et et Gaza sortie du blocus. Donc, bon, visiblement, les gens du Hamas, et je crois Meshal, qui est le principal responsable, a tenu compte des rapports de force qui, dans la région, qui étaient devenus assez défavorables à tout ce que représente, avec ses amis, ce que représente le courant Hamas. A tenu compte, c'est un homme politique effectivement qui sait analyser les rapports de force. Je terminerai simplement que c'est pas pour autant qu'il faut que la mise au banc de la communauté internationale d'Israël s'arrête, puisqu'Israël continue effectivement de bafouer, et tu l'as dit, à travers cette affaire des 400 hectares. Mais c'est la méthode qui se poursuit. Donc, poursuivre également la mise au banc d'Israël pour non-respect des règles internationales et les injonctions de l'ONU, en boycottant les produits. Alors, faut se rappeler que lorsque on passe devant l'étal dans un magasin, lorsqu'on voit un produit qui porte au début le code-barre qui commence par 729, eh bien on passe tout droit. On va voir ailleurs s'il n'y a pas autre chose. Voilà
ce qu'on pouvait ajouter. Pour ce sujet, on va peut-être revenir aussi sur l'Irak. L'Irak où les choses ont évolué en fin de semaine dernière avec des réactions militaires contre l'E2I, hein, c'est l'armée de l'État islamique. Et une ville, Amerli, qui était une ville turcomane essentiellement peuplée de chiites, qui était assiégée et qui a pu être débloquée, dégagée par l'action conjointe des Kurdes, de l'armée irakienne et des avions américains, évidemment. Donc il y a bien une conjonction de forces dans cette zone pour s'opposer à l'avancée de l'armée de l'État islamique, qui néanmoins garde une bonne zone sous son contrôle en Irak et du pétrole, ce qui n'est pas sans rapporter des dollars, et qui est aussi en situation d'affrontement en Syrie, où là, il y a encore des combats qui sont en cours. Bref, tout le monde s'affole un petit peu, y compris, on va peut-être un peu mélanger les sujets, là, mais ça a un lien très direct, y compris l'Arabie Saoudite avec Abdallah qui, à l'heure qu'il est, ben, est en train à Paris de causer avec Pépère pour parler des djihadistes. Et il fait monter la pression, ce prince Abdallah, en laissant entendre que les djihadistes arrivent en Europe rapidement et aux USA juste après. Donc il convient que les Occidentaux fassent le nécessaire pour les bloquer. Un peu curieux de voir l'Arabie Saoudite se démener à ce point, quand on pense que pendant des années, l'Arabie Saoudite sunnite comme les djihadistes extrémistes les a soutenus et encouragés, mais pensant peut-être qu'ils n'iraient pas aussi loin. Maintenant, ils se sentent menacés, l'Arabie Saoudite, mais aussi toutes les petites monarchies du Golfe, là, les États du Golfe. Ils se sentent menacés et ils se disent que ces gens-là pourraient bien venir leur piquer leur pétrole et leur faire la peau, tout simplement. Et donc, ils cherchent à les contenir, voire à les anéantir. Du coup, on discutera aussi avec Hollande contrat d'armement, les 3 milliards d'armement promis en 2013 pour le Liban, fournis par la France. Alors, ça, Valls va être content, les affaires reprennent en matière d'armement, parce que s'il faut leur livrer 3 milliards d'armement, il y avait une vingtaine d'années que les Français ne faisaient plus de business avec l'Arabie Saoudite dans le domaine, hein, les Américains. Après la guerre du Golfe, avait tout raflé. Finalement, maintenant que les Américains se font un peu tirer l'oreille pour intervenir, on l'a vu en Syrie, les monarchies du Golfe sont beaucoup plus enclines à se tourner vers des Européens qui voient leur intérêt à intervenir dans ces zones-là. Puis on dira aussi qu'il n'y a pas que la France qui se mouille, puisque l'Allemagne vient de décider de fournir des armes aux Kurdes d'Irak pour toujours lutter contre l'armée, l'État islamique en Irak, au Levant, en Irak et au Levant. Et il s'agirait de 30 missiles anti-chars, ce qui n'est pas une quantité considérable, mais il y aurait aussi dans les fournitures de prévu de quoi équiper 4000 hommes en fusils d'assaut et autres munitions. Bref, il n'y a pas une coalition occidentale qui se constitue contre l'État islamique, mais presque, et en tout cas en ordre dispersé. On voit que les supports, les apports de matériel et viennent de tout, un petit peu tous les côtés, tant cette volonté est grande de ne pas les laisser continuer leur expansion. Voilà, Robert, je te donne la parole.
Non, mais peut-être pour faire autre information, pour faire la transition avec l'Europe, dont nous allons parler maintenant, puisque l'Europe est en train de mettre ses institutions en place, d'une manière d'ailleurs qu'on relèvera toujours aussi peu démocratique. Simplement, c'est international, c'est la réunion de l'OTAN qui va avoir lieu dans deux jours, le 4 septembre, à Newport, mais le Newport du Pays de Galles. C'est donc une grande... on parlera de l'Ukraine et puis de l'État islamique, du Moyen-Orient et pas seulement. Et puis là, effectivement, quelle OTAN qui préparera aussi le changement de direction, puisque Ramsen s'en va, il sera remplacé. Ça va être un moment où ce qu'on a décrit là sur les rapports de force qui se mettent en place entre l'Europe et les États-Unis d'un côté, la Russie de l'autre. Et bon, pour l'instant, la Chine est hors du jeu, mais comme l'Inde d'ailleurs, et puis d'autres pays, mais la Chine, on pense surtout à la Chine, eh bien, on verra comment les débats au sein de l'OTAN vont orienter la diplomatie internationale. J'avais découvert sur ce qui est en train de se mettre en place à Bruxelles. Alors, d'abord, on commence par élire le président de l'Union des 28. Donc, c'est donc aussi peu démocratique, puisque c'est chaque État qui dit, voilà, ben, moi, je suis partisan que ce soit X, Y, Z. Et donc, ils se sont mis d'accord pour que ce soit un Polonais. Là, c'est du costaud, comme ça, un Polonais.
Donald
Tusk, très, très anti-russe. Donc, ça va dans le sens, effectivement, de ce qu'est la politique européenne actuellement. Et puis, alors, il remplacera le 1er décembre. Il va remplacer Van Rompuy, le Belge. Donc on ne connaît pas bien d'ailleurs le bilan. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est quelque chose de bien utile. Enfin, il paraît que ce président, c'est lui qui prépare toutes les réunions des chefs d'État. Donc effectivement, ça a forcément une certaine importance, pour autant que la Commission européenne, qui est sous sa responsabilité, et que le Parlement européen, et ça on verra ça dans les futurs mois, on n'y croit pas trop si le Parlement européen arrive à avoir une certaine autorité, à défaut d'avoir une autorité certaine. On a aussi désigné le représentant de l'Eurogroupe. Alors l'Eurogroupe, ça c'est les ministères des Finances qui se réunissent pour voir comment ils appliquent les règles de la Banque Centrale Européenne. Et là c'est un Espagnol. Alors bon, une Espagne très à droite et très très austéritaire, qui est mise à mal par son gouvernement. Et donc c'est le ministre espagnol des Finances qui va diriger l'Eurogroupe. Au niveau de la préparation de la composition de la commission, une commission dite de Bruxelles, eh bien, bon, Juncker s'est fait. L'homme du paradis fiscal veut faire de la bonne politique charitable en tant que président de la commission pour remplacer Barroso dans quelques semaines. Alors, Il y avait un grand débat autour de qui va s'occuper des affaires internationales, étrangères, etc. Et finalement, les Italiens avec Ramsi ont réussi, bon, dans des rapports de force interne aux différents pays, à ce qu'un consensus soit trouvé autour de sa ministre des Affaires étrangères, Federica Mogherini, qui sera donc la remplaçante de Catherine Ashton, l'anglaise. Bon, on n'est pas perdant, parce que Ashton, c'était une dame du libre-échange. Bon, l'italienne, on ne sait pas trop. Ça sera effectivement peut-être une autre manière de concevoir la diplomatie européenne. Et puis alors, on prépare les futurs membres de cette commission, dont on sait qu'ils vont avoir à se présenter devant le Parlement européen, mais on a l'impression que tout va être ficelé et que le Parlement européen, finalement, il va peut-être se regimber, mais finalement, ça servira à rien parce qu'on aura décidé de l'essentiel. Côté français, bon, c'est pas le côté français, c'est-à-dire le poste de l'économie irait à Pierre Moscovici, qui était le candidat de la France depuis longtemps. Et on avait vu que les Allemands n'étaient pas très d'accord pour que ça soit un Français, compte tenu que la France traîne les pieds sur les politiques économiques et financières européennes. Mais néanmoins, au dernier moment, les Allemands ont accepté que Moscovici soit le ministre de l'économie de la Commission. Et on peut d'ailleurs se demander si les Allemands ont cédé, rassurés quand ils ont vu que en France on virait Montebourg et qu'on faisait un credo à l'économie libérale telle que les Allemands la souhaitent. Voilà, peut-être t'as d'autres éléments sur cette composition européenne qui se prépare.
Non, pas plus. C'est bien, si ce n'est de rappeler que le dénommé Donald Tusk, c'est pratiquement un hyper-réac, c'est presque l'extrême droite qu'on nous met là au pouvoir. Et puis l'Espagnol, eh ben, c'est aussi l'homme qui a mené la cure d'austérité, donc on peut s'attendre là aussi à des positions extrêmement droitières et en matière d'économie et de social. Voilà, eh bien, on va peut-être faire une pause musicale. Il est temps, si on veut parler un petit peu de l'actualité française. Il y en a une aussi. Bon, juste une brève, on dira qu'au FMI, on adore les escrocs et les gens un peu interlopes. Après avoir eu des SK dont on a fini par se débarrasser, voici que Madame Lagarde est mise en examen et qu'elle est néanmoins gardée comme directrice du FMI. Eh bien, voilà. Un marronnier, c'est la saison, la rentrée des classes.
Où t'en vas-tu, petit garçon? Tous les arbres roux de l'automne. Je sens passer comme un frisson quand j'entends la cloche qui sonne. Avec ton sourire moqueur, où t'en vas-tu, petite fille? Je sens comme un coup dans le cœur quand j'entends qu'on ouvre les grilles. Écoute, cahiers qui claquent sur le comptoir des papetiers, c'est le signal du jeune massacre, ils nous rabattent le gibier. Faut dire que la rentrée des classes, pour nous autres les enseignants, c'est un peu l'ouverture de la chasse, d'ailleurs ça tombe au même moment. Ils font la touche haut devant la porte, avec le cœur bien palpitant, c'est tout ce qu'ils ont, l'émotion forte, quand ils n'ont pas encore 12 ans. Bien sûr on peut plus jouer de la trique comme autrefois dans le bon vieux temps, mais il y a des trucs aussi pratiques qui font souffrir par le dedans. Il y a le zéro que l'on colle à la fille un peu maquillée et dont les larmes vous consolent de la voir si courte habillée. Il y a celle dont les seins provoquants vous donnent des fourmis dans les mains et que l'on rattrape au tournant quand revient le temps des examens.
des conjoints, des récipiendaires et des médailles du travail, avec des cœurs de frigidaire bien protégés par les médailles. On sait qu'aux portes des communales, il y a des sadiques et des vicieux, on les retrouve au tribunal, c'est peut-être pas eux les plus dangereux. J'en connais des très respectables, manières fort élégantes, qui cachent au fond de leur cartable des idées pas très reluisantes. Écoutez les cahiers qui claquent sur le comptoir des papetiers, c'est le signal du jeu de massacre, ils nous rabattent le gibier. Faut dire que la rentrée des classes pour nous autres les enseignants, c'est un peu l'ouverture de la chasse, d'ailleurs ça tombe au même moment.
Elisabeth vous racontait la rentrée des classes, vue par Guimoud de la Tronche. Vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce lundi 1er septembre avec Jean-Pierre et Robert. Bon, rentrée scolaire, on va en dire deux mots parce que la chanson portait là-dessus. Donc le préfet a décidé qu'il irait faire lui-même la classe dans les 20 communes qui refusent de remettre en service le mercredi pour les scolaires. C'est pas tout à fait ça, mais ça revient à ça, puisque notre nouvelle ministre, hein, Najat, bien connue de nos auditeurs et citoyens lyonnais, Najat Vallaud-Belkacem, a confirmé que la réforme serait appliquée comme elle devait l'être. Alors on va voir mercredi si Dupont-Aignan plie, si le maire d'hier plie, ou s'il font de la résistance. En tout cas, pour donner un très bref panorama de la rentrée, 2300 postes dans le primaire, 2000 postes en plus aussi dans le secondaire, la mise en place des réseaux d'éducation prioritaire dans 102 établissements avec un projet d'en avoir 10 fois plus à la rentrée prochaine. Des mesures comme la mise en place de 2 enseignants par classe dans les classes de primaire des REP où il y en a le besoin. Et puis, il y a la création des écoles supérieures du professorat. On a l'impression de tourner en rond là et de revenir un peu depuis l'école normale. On n'a pas arrêté de changer le nom des écoles de formation. Il restera à voir si le contenu des formations change et répond beaucoup mieux à la demande et aux besoins des enseignants et des élèves. Voilà pour ce sujet. Robert, on parle un peu politique, université d'été.
Oui, peut-être ajouter un mot sur Belkacem, parce que depuis sa nomination, là, elle est vraiment victime ça frôle le racisme. Effectivement, c'est un racisme qui n'ose pas dire son nom. Et alors, évidemment, on part des idées qu'elle a défendues avec brio et courage, notamment sur l'égalité homme-femme, sur le genre, et puis d'autres choses comme ça. Et la droite attaque à fond, l'attaque à fond. Et en même temps, on sent bien que ça, à droite, ça plaît pas beaucoup, parce que ses origines algéro-marocaines, ça passe mal. Hein. Bon, elle, on peut pas lui faire le reproche qu'on a fait à Taubira, où on est allé jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire à faire des comparaisons animalesques, mais c'est du même niveau. Et c'est incroyable qu'en France, on en soit encore là, et notamment, et à droite, pour l'essentiel. Oui, alors tu évoquais, oui, les rentrées politiques. Alors, on a eu l'occasion la semaine dernière d'énumérer un peu comment la gauche de gauche se rassemblait dans ces journées d'été, que ce soit le PCF, que le PG, parti de gauche, que ce soit Ensemble, que ce soit le NPA, Et donc on va ajouter que chaque Italie, effectivement, c'est pour la plupart, ça représente la gauche de gauche en grande partie, vont se retrouver la semaine prochaine à la fête de l'UMA et débattre entre eux de quid de l'avenir du front de gauche, quid de l'avenir de la gauche en général. D'ailleurs, c'est un grand débat et l'opposition, la gauche du PS a lancé donc un club, c'est Vive la gauche. Ben évidemment, et j'en profite pour souligner qu'il y a une très bonne, il y a encore un très bon dossier dans le Monde diplomatique de septembre, avec un titre de Frédéric Lordon, dont on connaît les qualités pour évoquer ces questions. La gauche ne peut pas mourir. Il avait trouvé un titre assez extraordinaire. Bon, ben effectivement, aussi bien la gauche de gauche qu'une partie minoritaire, qui vise à être majoritaire du PS, dit aussi que il faut que ça change, ça peut pas continuer comme ça, mais quelles sont les conditions pour que ça change? Ben, c'est pas évident, alors que Valls continue effectivement d'affirmer sa ligne, on va dire, social-libérale totale. On a vu comment, même s'il a démenti, comment il laisse s'ouvrir à nouveau un débat sur les 35 heures, sur laquelle la presse a bondi naturellement, la presse de droite en général, et même la presse est heureuse qu'on puisse taper sur les 35 heures. Sur l'encadrement des loyers, bon, tu vas peut-être y revenir plus longuement. C'est qui est supprimé. Sur les coûts du travail, les cotisations qui sont réduites pour le patronat, sur ces mots qu'on laisse courir, sur on va créer un SMIC intermédiaire. Alors c'est Reb Salem qui avait lancé ça, et puis voit qu'il l'a repris à son compte. Et puis il a également ministre du Travail. Et les seuils sociaux, c'est-à-dire finalement, aurait-ce bien utile de faire un comité ou de mettre des délégués du personnel dans les entreprises au-dessus de 10 salariés, etc. Bon, tout ça, tout le cadre social qui est remis en cause, et que visiblement même la gauche à La Rochelle, la gauche du PS, on peut pas dire qu'elle s'est beaucoup battue pour dénoncer cette dérive totale. Et puis on a vu le MEDEF avec le retour de Kessler, l'ancien Mao reconverti au libéralisme total, et qui, on se souvient, quand il était avec Parizeau, même si elle l'avait un peu mis à l'écart, il n'empêche, c'est lui qui, pour le compte de Sarkozy, disait ben, il faut éliminer tout ce qui reste du fameux Conseil national de la résistance, donc continuer à laminer tous les acquis sociaux. Et voilà, alors c'est sur cette base là qu'on est aujourd'hui, et on peut dire qu'on est très mal parti.
Oui, ça, on vient un petit peu sur l'immobilier. Ce qu'il y a de bien, c'est que on a l'impression qu'il n'y a pas de changement, quoi. Sarkozy est parti, mais comme Valls fait la même politique, c'est bien, on est dans la stabilité, c'est fabuleux. C'est-à-dire que Valls continue de donner aux riches pour faire du logement plutôt que d'en faire profiter. Alors, il y a des petites mesures, hein. Il y a une mesure de 30% de réduction d'impôt sur les terrains à bâtir qui seraient vendus, des terrains qui seraient vendus comme terrains à bâtir. Il y a aussi des mesures qui visent à ce que le préfet pourrait passer par-dessus les décisions du maire sur les terrains qui sont susceptibles d'être construits ou pas. Ça va sûrement pas beaucoup plaire dans les mairies, cette affaire-là, mais en même temps, on sait qu'il y a aussi des lobbies dans les mairies, et que ça n'a peut-être pas été l'idée du siècle de donner le pouvoir aux maires qu'ils ont en la matière, puisqu'ils sont encore beaucoup moins impartiaux que les fonctionnaires moyens et hauts de l'État, quoi. Et il y a le détricotage, comme on l'appelle, de la loi Duflot, qui n'était déjà pas une loi très, très, très sociale, on va dire, mais qui, là, pourrait encore, en particulier, la question du plafonnement des loyers. Alors, donc, Valls a annoncé royalement qu'il décidait que ça ne s'appliquerait qu'à Paris, étant donné que dans les autres villes, on n'a pas les moyens de faire les contrôles, ce qui est sans doute un peu vrai techniquement parce que c'est pas simple, mais n'empêche que c'est une manière de justifier une politique antisociale vis-à-vis des moins riches. Et à la mettre au point que la mairesse de Lille, Martine Aubry, donc, a décidé que, quant à elle, eh ben, le plafonnement des loyers dans sa ville, elle l'appliquerait.
Et suivi par Grenoble, mais Grenoble, avec sa municipalité à majorité verte, ne pouvait pas faire moins. Mmh. Et on peut penser que peut-être à Lyon, ils vont suivre, mais c'est pas sûr.
Oh, Colomb, là, il raciocine son échec d'être devenu ministre, alors il va sûrement pas leur faire des cadeaux. Hein. Il a pas dit qu'il regrettait de ne pas être ministre, mais il a quand même dit qu'un gouvernement sans lui, ce serait beaucoup moins bien qu'un gouvernement avec lui. Donc vous pouvez facilement en déduire le fond de sa pensée. Quoi. Voilà une belle occasion pour lui d'entrer dans les cadres des ministère, peut-être il en attend une autre, on ne sait pas. En tous les cas,
cette affaire du, non, pour rester juste sur le tout dernier sujet là, de l'encadrement des loyers, on est dans une situation de forfaiture pratiquement, parce que voilà, le gouvernement se permet de passer outre, même de dire, de faire le contraire de ce qui est voté par l'Assemblée. C'est du jamais vu sous cette forme-là. Et je crois d'ailleurs, les journaux, l'Humanité, met la gomme là-dessus, coup de force du gouvernement, etc. Mais c'est vrai que là, on est dans un débat sur la pratique de la démocratie.
Voilà. Alors, pour en revenir à Bruno Leroux, donc, qui est le porte-parole là, du PS, il a sommé les frondeurs de se taire et leur a demandé d'arrêter de vouloir changer quelque chose. C'est pas mal, ça, hein, comme pratique démocratique. Au moment où, justement, le PS se lance dans des états généraux qui vont durer 4 mois. 4 mois de débat, mais sans jamais rien voter. Hein, comme ça, on est tranquille. Et puis, ce nouveau gouvernement devait exclure tous les couacs possibles et inimaginables, ben c'est raté parce que le premier jour, le dénommé Macron avait déjà fait la veille d'être nommé une déclaration sur les 35 heures que tout le monde, Valls et ses sbires, ont dû contredire en disant qu'on ne toucherait pas aux 35 heures, mais le mal était fait. Le premier couac est arrivé le premier jour. Voilà, qu'est-ce qu'on pouvait évoquer d'autre
Voilà, la suite des événements, eh bien, on pensait qu'effectivement, que de ces réunions des socialistes sortirait quelque chose de plus consistant venant de l'opposition de gauche, et en fait, il n'en est rien. C'est le bilan qu'on peut faire, qui effectivement n'augure guère de l'avenir des possibilités de faire une alternative à la dérive droitière Hollande-Valls.
Alors, un mot de l'UMP, il paraît qu'ils sont tellement fauchés qu'ils n'ont pas pu faire d'université d'été, c'est nourrir. Ils se sont contentés d'un campus jeune au Touquet, avec le maire qui plastronne pas mal, l'homme qui moins marqué que tous les autres, donc cherche à se placer en faisant des tours de France en permanence. Donc pas de grande messe nationale de l'UMP. Et comme on ne peut pas vraiment parler de l'union à l'UMP, on a parlé des divisions des socialistes. C'est le plus petit commun dénominateur. Et puis un mot du dénommé Lavrieux, qui fait du chantage, à la fois il balance, et maintenant que le voilà copéiste, hein, Lavrieux, le voilà mis en cause, il dit que si on continue à l'ennuyer, eh bien, c'est l'homme par qui le scandale Big Malion est arrivé, eh bien, si on m'exclut de l'UMP, par exemple, je parlerai. Autrement dit, je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais il a sûrement quelque chose à dire qui aujourd'hui est dissimulé, sans doute sur les 17 millions de suppléments de la campagne de Sarko qu'il a maquillé jusqu'à ce que le poteau rose soit révélé. Voilà, tu avais un autre sujet, Robert, où on termine là ce Canu Info.
Je peux peut-être donner un peu d'espoir aux 800 travailleurs de GAD, cette coopérative, enfin, qui porte encore le nom de coopérative, mais ce groupe industriel et agricole de Bretagne, qui finalement seront peut-être n'iront pas pointer tous au chômage, puisque Intermarché, par l'intermédiaire d'une de ses filiales, Rosé, qui s'occupe des affaires de viande, va sans doute décider de reprendre GAD, mais sans doute une partie de GAD. Ça, c'est sur les dossiers sociaux dont on va à nouveau parler, bien sûr, parce que maintenant, passé le 15 septembre, eh bien, tout est toujours en l'état tel que c'était au début de l'été.
Voilà, ce Canu Info se termine. On va le terminer avec une chanson pacifiste de Pete Seeger, chantée par Anne Fromm. On ne sait jamais, des fois que ça calme les ardeurs de beaucoup de monde. Il sera rediffusé demain matin à 8h. Vous devriez également pouvoir le retrouver sur Internet. Et ne quittez pas l'antenne. Bonsoir.
Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wann haben sie geschwind? Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind. Die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, und sogar fort der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Verstehen, wann wird man nie verstehen?